Genèse chapitre 1. On a déjà lu de grandes parties de ce chapitre. Et on va le relire d'une façon différente. Les deux premières fois, on s'était attaché, vous savez, à crédibiliser un peu ce texte parce que il y a beaucoup de personnes qui trouvent que non, ça n'a pas de sens. Ce Dieu créateur préfère un système qui met du temps, qui évolue, etc. Mais nous avions vu que c'était une démonstration de la puissance de Dieu que nous avons, puisqu'il déclare qu'en 6 jours, il a fait l'univers entier. Et quand on sonde les étoiles, plus les scientifiques sondent la création de Dieu, plus ils trouvent des choses extraordinaires. On ne finit pas de sonder les profondeurs de Dieu, pourrions-nous dire. Une démonstration de puissance. Et ce Dieu, donc, est proche, en même temps, pour nous sauver. À qui pouvons-nous trouver une personne suffisamment puissante pour nous sauver, si ce n'est auprès du Créateur de l'univers. Un Dieu qui ne pense pas évolution, mais qui pense plutôt repentance, qui pense plutôt revenir à lui, et qui pense recréation, nous recréer, faire de nous de nouvelles créatures par rapport aux problèmes que nous avons avec le péché. Mais ça, c'est pour plus tard dans le texte. Alors, je vous propose aujourd'hui, puisque ce texte, Dieu veut nous parler de lui, qu'on essaye un maximum de découvrir ce qui concerne Dieu ce matin par notre lecture. Si vous avez un jour, vous êtes invité chez quelqu'un, ben c'est la première fois que vous venez, ben vous allez regarder partout comment c'est. Bien sûr, vous allez le faire discrètement pour pas que la personne soit mal à l'aise, mais si c'est une personne que vous aimez, que vous admirez particulièrement, c'est sûr que vous voudrez vous imprégner de tout ce que vous verrez, vous va vous parler de la personne. Et la façon dont elle va vous recevoir, et la façon son lieu de demeure, Nathanaël, les disciples voulaient voir où est-ce qu'il habitait Jésus, où est-ce qu'il demeurait. Ça les intriguait. Et donc, on va faire la lecture ce matin, chapitre 1, on va lire jour après jour, et dans chaque journée, on va essayer de découvrir quelque chose de Dieu. Qu'est-ce qu'il nous montre de lui-même? C'est la façon dont nous allons lire ce matin. Alors, on va lire le premier jour, et puis chaque jour, on fera un petit bilan des choses que l'on découvre. Donc, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Voilà, nous sommes à la fin du verset 5. Alors, qu'est-ce qu'on apprend? On voit ici un Dieu qui est plein d'autorité. Que la lumière soit, et la lumière fut. Première chose qu'on découvre sur Dieu. On voit également que dit que la lumière est bonne, que la lumière lui plaît. Et on voit également qu'il fait la séparation. Il aime bien séparer les choses, séparer la lumière des ténèbres. Et il aime donner des noms également aux choses. Il les appelle par leur nom. Les choses, quand elles sont venues à la création, eh bien, reçoivent des noms. Elles reçoivent des noms. Le premier jour. Le deuxième jour. Verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec celles qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut fait ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, et il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le deuxième jour. Alors, ici, on apprend, il y a cette question de séparation des eaux. Alors, ça semble assez mystérieux. Comment il y avait de l'eau en haut, il y avait de l'eau en bas. C'est pour ça que on peut dire que cette parole est faite par révélation, parce que qui pourrait l'imaginer une chose pareille? Non, c'était que Dieu qui pouvait expliquer la façon dont il avait fait le monde. Et donc, il y a séparé les eaux par une sorte de voûte comme ça. Et on retrouve la même chose, un petit peu les mêmes thèmes, la parole d'autorité, séparer les choses, et donner des noms à ce qui est ainsi mis en évidence, ce qui est créé. Le troisième jour. Verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et il fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Et Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit, selon leur semence, selon leur espèce, ayant en eux la semence sur la terre, et cela fut fait ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence, selon son espèce, des arbres donnant du fruit, ayant en eux leur semence, selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le troisième jour. On voit que la terre est une bonne chose. Et on voit que Dieu veut que la terre produise des plantes. C'est comme si il communique un petit peu de choses, de puissance à la terre pour qu'elle fasse pousser les plantes. Et la terre fait pousser les choses elles-mêmes. Et on voit également la question de la semence, sur laquelle il était bien insisté ici. La parole de Dieu insiste sur cette question de semence, hein, avec un soin particulier, plusieurs versets là-dessus. Hein. L'herbe portant de la semence selon son espèce, etc. Les arbres donnant du fruit, ayant leur semence selon leur espèce, et donc chaque arbre qui pousse va avoir à lui-même de quoi se reproduire, et chaque plante selon sa même espèce. Quelque chose de très important, on voit vraiment ici, il insiste là-dessus. Le quatrième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer, encore une fois ce mot qui revient, séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, le plus petit luminaire pour présider à la nuit, et il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le quatrième jour. Alors, quatrième jour, on voit que Dieu invente le temps. Je suis bien dans le quatrième là, oui. Le quatrième jour. Dieu invente le temps. Ben voilà, il va y avoir le temps. Et tout ce qui va marquer les jours, les années, etc. Tout ça va être mis en place. Des alternatives d'obscurité et de lumière. Et donc les choses vont changer périodiquement comme ça. Alors, ne soyons pas surpris que dans nos vies également, il y ait des fois des périodes comme ça. L'obscurité, la lumière, le jour, la nuit et le temps qui va se mettre à passer. Continuons, verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. Que les oiseaux volent sur la terre et sur l'étendue du ciel, et Dieu créa les grands poissons, tous les animaux qui se meuvent, et que les eaux produisent en abondance, selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé, selon son espèce. Dieu vit que c'était bon. Dieu les bénit en disant, « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le cinquième jour. Alors on voit ici quelque chose de nouveau. On savait que Dieu crée plein de choses, il crée les animaux, Mais là, quelque chose de nouveau, il parle aux animaux. On en a des animaux qui vont être capables d'entendre, d'écouter la voix de Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Dieu va s'adresser à sa créature. Il va pas seulement... il va leur parler. Hein. Il va leur parler. Il donne des instructions. Il donne des instructions à sa création. Il leur parle. Et puis, il y a cette question de multiplication. Hein. Pour les animaux, là, ils avaient un objectif. Multiplier, remplissez la terre. Alors, d'abord, Dieu a fait la division, il sépare, et là, il fait la multiplication. Il faut multiplier. Et voilà ce qu'on constate pour ce cinquième jour. Peut-être vous voyez d'autres choses, hein. Bon, moi, c'est ce que j'ai retenu. Alors, continuons. Verset 24, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leurs espèces. Toujours la même chose. Du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce. Et il fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Et Dieu dit que c'était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la terre, de la mer, pardon, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu et il le créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Ah. Première bénédiction de Dieu. Dieu les bénit et leur dit... Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est sur la surface de la terre, et tout arbre ayant à lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tous animaux de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Alors, on a plein de choses encore, sixième jour. On voit que Dieu voulait créer quelque chose à sa ressemblance. L'homme est créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. C'est le scoop de ce sixième jour, tout à fait à la fin, la dernière de ses créations. Et Dieu il donne des choses à l'homme, il donne la domination sur les autres animaux qu'il avait fait avant, il donne la fécondité, il donne la nourriture tirée de la terre. Voilà, les premiers hommes étaient des végétariens, ce qu'on apprend ici d'ailleurs, tout le monde était végétarien à ce moment-là, même les animaux étaient végétariens. C'est vraiment une parole révélée que nous avons là. Une parole révélée. Quelque chose qui ne ressemble à rien et qui aurait en aucun cas pu germer de l'esprit d'un homme. Comment quelqu'un pourrait imaginer que tous les animaux qui nous entourent puissent être un jour avoir été des végétariens. Bah, pourtant, c'est ce qui est déclaré ici. Et pour terminer, donc, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, il considère tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. C'était très bon. Alors, de tout ce que nous avons vu, qu'est-ce qu'on peut tirer pour nous aujourd'hui? Quelle importance ça peut-il avoir, toutes ces choses-là? Si on regarde le premier mot qui revient le plus fréquemment, je l'ai souligné avec vous lors des lectures... la séparation. La séparation. Alors, Jésus-Christ est venu, Dieu parmi les hommes, Dieu parmi nous, Emmanuel. Quel beau nom, Emmanuel. Et Emmanuel a dit quand il était là, par de nombreuses paraboles, que la séparation, ça allait, Dieu allait de nouveau, bientôt, séparer les choses. Il a donné la parabole de l'ivraie et du bon grain. savez cette parabole de Matthieu chapitre 13 où Dieu sème les fils du royaume et également l'ennemi vient mettre de l'ivraie. L'ivraie, c'est une plante qui est toxique, qui n'a rien à voir avec le blé, mais au début ça ressemble, ça semble que c'est pareil. Et Dieu veut ménager sa chère semence. Et quand les anges se proposent de venir arracher l'ivraie, ils disent « En arrachant l'ivraie, vous allez faire périr mes plantes de blé. Laissez pousser tout ça, et à la fin, vous allez crier, vous allez arracher l'ivraie, et le blé il sera pour moi. » Une séparation avec deux destinées. L'enfer, c'est Jésus qui en parle. C'est lui qui a l'autorité pour parler de ça, ou la gloire du royaume de Dieu. D'autres paroles de séparation, c'est à son retour ceux qui sont pris et ceux qui sont laissés sur la terre. Vous trouverez ça dans l'évangile de Luc, au chapitre 17. C'est Jésus qui parle de tout cela. On peut parler également Matthieu chapitre 25, avec la parabole des brebis et des boucs. Quand le roi revient, il va séparer les brebis des boucs, c'est-à-dire ceux qui ont eu de l'attention pour ses frères, ceux-là, il va les appeler bénis. Et il va dire ceux qui n'ont pas eu égard à ses frères, ceux-là, il va les appeler des maudits, il va séparer, il va trier les boucs d'un côté et les brebis de l'autre. La séparation, donc, est toujours une perspective que nous pouvons avoir devant nos yeux en ce qui concerne le caractère de Dieu. Et puis, vous avez vu les jours. Comptez ces jours. Les temps sont dans la main de Dieu. Et pour nous, ici-bas, le temps passe vite. Moïse, qui était... il nous a laissé un psaume, psaume 90. Et c'était un homme de Dieu. C'était le psaume commence en disant Moïse, homme de Dieu. Psaume de Moïse, homme de Dieu. Et il nous a laissé un chant, un seul chant, et dans lequel on trouve au verset 12 cette recommandation. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Enseigne-nous à bien compter nos jours. On ne va pas lire le psaume. Moïse a vécu assez longtemps, 120 ans à peu près, donc il était bien placé pour nous parler de ce qui concerne les jours et les années qui passent et le sens qu'on devait leur donner. Savoir bien compter les jours. Les jours passent vite pour nous. Autre enseignement qu'on peut trouver, c'est qu'on récolte ce que l'on sème, une loi que Dieu a mis en place, telle semence, tel fruit, telle semence, tel fruit. C'est une loi qu'il a mis en place ici et qui reste jusqu'à présent et qui s'étend bien au-delà de la biologie. Voici ce qu'enseigne l'apôtre Paul dans l'épître aux Galates. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Celui qui sème pour la chair dans la parole de Dieu, c'est ce qui est ici et maintenant, qui est opposé à l'esprit, qui est différent. La chair concerne notre nature que nous avons maintenant comme tous les hommes. Et l'esprit, ça concerne toute cette nouvelle nature, cette nouvelle création que Dieu produit par la nouvelle naissance. Alors, semer selon la chair, c'est semer des choses qui sont ici et maintenant. Et ces choses-là, ça moissonne la corruption, ce sont des choses qui vont se périr. Si vous investissez dans une voiture, il n'y a rien de mal à ça, mais cette voiture, un jour, finira la ferraille, vous pouvez en être certain. Peut-être il y aura un collectionneur qui va la prendre et la, et lui redonner un nouveau souffle. Ouais, mais la corruption est quand même là. Hein. Et les collectionneurs, ils savent que les vieilles ferrailles, elles n'ont pas la résistance qu'elles avaient les premières. Hein. Et ça fait des modèles de collection, oui, mais qui sont quand même, qui restent bien, bien fragiles et qu'il faut prendre un grand soin. Des choses qui se corrompent. Hein. Si vous investissez dans, je ne sais pas, une maison ou un champ ou quelque chose comme ça, vous savez, tant que vous serez là, vous en occuperez, ça ira. Mais le jour où vous ne serez plus là, qu'est-ce que ça va devenir? Des choses qui vont être rongées, mangées par le temps. Et celui qui sème pour l'esprit moissonnera la vie éternelle. Et donc, l'apôtre encourage à investir pour ce qui a une portée éternelle et qui ne périra jamais. Ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi. Galates chapitre 6, versets 7 à 10. J'aurais pu souligner dans ces passages que j'ai vus l'activité qu'il y avait derrière tout cela. On voit que la vie, ça produit, c'est actif. Et donc l'apôtre nous encourage ici. Pratiquons le bien. La vie, soyez féconds, multipliez, dominez la terre. Il y a très très longtemps de ça, on avait un petit neveu d'une cousine éloignée qui était venu nous voir. Il vivait à Paris, il avait l'âge de junior à peu près une douzaine d'années, il s'appelait Bob, c'était pas Robert, c'était Bob tout seul. Et il est arrivé, on l'avait amené sur le Cos, dans la région de Millau, là-haut, avec de la famille, et puis il s'est trouvé là au milieu du Cos, des étendues à perte de vue, et puis il grimpait, il sautait partout, il était heureux, il chantait, il criait, et il disait « Je suis le roi de la montagne !» Et effectivement, il était le roi, il était tout seul. C'était une expérience unique pour lui. Et il faut se mettre un petit peu dans la peau de cette première création de Dieu qui se trouvait là dans un univers qui était tout vierge, qui était tout à explorer. Soyez féconds, multipliez. Cette désir que la vie grandisse, que les choses poussent, que la terre produise, que les animaux y aillent partout, des oiseaux, et l'homme au milieu de tout ça qui doit également se multiplier, être fécond, avoir la vie, porter la vie, transmettre la vie. Et c'est certainement valable tout ça pour nous aujourd'hui, cet encouragement à vivre. Vivre. Tout ça est très bon, tout ça est la gloire de Dieu. À la gloire de Dieu. Alors pour conclure, pour nous encourager, je vous recommanderai ce verset de l'évangile de Jean, parole de Jésus, Jean 10, 10, parole qu'on connaît bien. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, moi, Jésus. Je suis venu pour que les brebis aient la vie. Pour qu'elles aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dans l'abondance. Et même si nous sommes dans un monde qui se corrompt, on a l'impression que ça se vide, que ça s'épuise, que la terre créée se vide petit à petit. Ah ben, il est venu pour que ses brebis, elles aient la vie. Alors, vivons une vie d'enfant de Dieu, de nouvelle créature, une vie pleine, une vie abondante, une vie qui utilise l'instant présent. L'avenir ne nous appartient pas, le passé c'est terminé, mais de vivre l'instant présent à fond. Le vivre. Ce monde de bonnes choses, ayons le soin de semer pour le futur, de semer des choses qui auront une portée spirituelle. Et gardons avec tout cela la crainte de Dieu par rapport à cette séparation dont il a prévu dans le futur. Je vais vous laisser avec ces pensées aujourd'hui. Je vais laisser Jean conclure notre réunion.